Vous écoutez RTL.
Il est 11h, passé de 3 minutes sur RTL et vous êtes en compagnie de Stéphane Bern.
Absolument, merci beaucoup Quentin Binet. On vous retrouve naturellement à midi pour faire un nouveau point sur l'actualité. Et nous plongeons dans la bonne heure avec Isabelle Nanty, Olivier Barou. Les cuches, ça c'est l'événement de la semaine. On va en parler dans un instant, mais vous savez que je suis entouré de notre enquêteur numéro 1.
Ah oui.
Eh oui, oui, il enquête sur tout, même les affaires criminelles, non. Mais bon, ça c'est autre chose. C'est Cyprien Sini.
Tout à fait, bonjour Stéphane.
Non, je voulais pas en révéler davantage.
N'en dites pas plus.
On l'appelle l'enquêteur.
Non, en tout cas, ce qui est bien, c'est que Jeff Tuche n'est pas seul.
Voilà, il y a d'autres présidents par hasard.
Il y en a des pires.
Ouais, très bien. Et vous êtes incroyable ce que vous arrivez à trouver sur la toile. Vous, c'est incroyable. Il y aura aussi la vie des bûches, VDB.
La vie.
Régis Maillot. Mais non, c'est pas ça, VDB, c'est quoi?
C'est pas la bûche, c'est pas vous, c'est la vie de Berne.
Oh, rappelez-vous. Non, arrêtez, mais ma vie rêvée n'intéresse
pas. Non, vous avez
personne.
Été très sympa ce week-end. Je vais vous raconter ce que vous avez fait.
Ah oui, j'ai fait quoi?
Ah bah, vous allez voir tout à l'heure.
Il n'y a aucun espoir.
Animation, non?
Par exemple,
pourtant,
un peu
moi, je sais ce que j'ai fait, mais personne ne va me croire.
Je sais qu'il y a une animation, non?
Ça nous intéresse.
Le zapping télé d'Éric Dussard.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Beaucoup de musique ce week-end, évidemment. The Voice, Destination Eurovision et une petite mélodie de vengeance ce matin sur BFM TV.
Ah, très bien.
On va parler de l'affaire Fillon en des termes assez cash.
Ah oui, très bien. Il y a des costumes. Oui, l'affaire Burgi.
Ah bah oui, vous entendrez. Bah, monsieur Burgi, il n'a pas la langue dans sa poche. Ah, oui.
Et puis, nous terminerons cette émission avec le test musical, le quiz de Patrice Carmouze.
Bonjour.
Et un très beau cadeau à la clé.
Ah.
Un séjour au Futuroscope pour 4 personnes. Eh oui.
Pardon.
Non, mais ça fait rêver, non?
Ah ouais. Le Futuroscope.
Oui.
Alors,
appelez au 3210.
Dans le Marais Poisin.
Monsieur Monori qui était
envoyez le mot bonheur René par SMS. Qui avait
créé ça,
on parle tous sur Stéphane. Oui. Personne ne gêne personne.
Non, mais Patrice, parce qu'il n'écoute personne, en fait. 74 900 avec le code bonheur. Écoutez-moi, Patrice. Et quel est le thème de votre quiz?
Eh bien, comme les Tuches s'orientent vers un troisième énorme succès, on va parler des chanteurs qui n'ont eu, eux, qu'un seul succès.
Ah, très bien.
Oui, ça, je suis...
Et un de ces jours, il nous parlera des chanteurs qui n'ont eu aucun succès.
Mais qui sont plus difficiles à trouver.
Et des chanteurs qui n'ont jamais enregistré.
Ça, c'est intéressant.
Oui, je vous présente nos invités. Ils sont devenus les Simpsons à la française, en à droite ligne des Bidochons, certes un peu simplets et franchement beaufs, mais terriblement attachants, tant ils sont naturels et restent eux-mêmes, quelles que soient les circonstances. Dans leurs folles aventures, à Monaco, puis aux États-Unis, ils promènent leur humanité, leur incroyable fantaisie sans filtre, avec une drôlerie rafraîchissante, en dépit de tout ce qui pourrait être moqué ou caricaturé, comme leur franche bêtise, leur esprit franchouillard revendiqué, ou leur absence de goût pour le travail et l'effort. Ils osent tout, et surtout ce que nous on rêverait de faire. Et c'est aussi pour cela que cette famille de branquignoles est devenue un phénomène de société. Ils sont cultes, de leurs répliques jusqu'à leur look. On se les arrache, on imite leur accent ch'tien indéfinissable, et on entend certains même qui réclament d'accord et à cri des frites à chaque diffusion des volets 1 et 2 qui réunit près de 10 millions de téléspectateurs quand c'est diffusé à la télévision. Bref, c'est dire combien Les Tuches 3 est attendu sur les écrans le 31 janvier avec en haut de l'affiche Jean-Paul Rouve et celle qui nous fait l'amitié de venir ce matin avec le réalisateur, j'ai nommé Isabelle Nanty et Olivier Barou.
C'est un plaisir.
Merci.
C'est un plaisir. Merci de nous inviter.
Ça fait chaud au cœur.
Le troisième volet des Tuches, Les Tuches 3, tout simplement sort mercredi. Le premier film avait été un beau succès, 1,5 million, je crois, de spectateurs. Le deuxième, un triomphe, avec plus de 4,5 millions de spectateurs. Et c'est vrai que c'était le seul film de 2016 qui a dépassé les 4 millions. Alors, il y a un phénomène Tuche, on imagine.
On le ressent un petit phénomène, mais ça nous fait un peu peur, ça nous dépasse un peu ce phénomène en fait. Nous, on l'a pas, on s'est pas dit tiens, on va faire un phénomène.
Non. Allez, vous faisiez une pochade, un truc un peu drôle,
et puis ça, le premier est passé à la télévision, effectivement, pas loin de 9 millions de spectateurs, et là, ça nous a complètement dépassé. Les gens se sont appropriés les répliques, ont commencé à prendre l'accent de Jean-Paul, d'Isabelle. Et voilà, j'aime le veau, des frites, t'es là ou t'es pas là, il y en a partout sur Internet.
Il y a une équipe d'onde même qui s'appelle.
Une équipe de hand en Belgique s'appelle Les Tuches, ouais, et on a fait le 2, et voilà, ça a été un gros succès. Ouais. Et là, on a été très vigilant à l'écriture du 3, parce qu'il ne faut pas décevoir, évidemment.
Ouais. Bah oui, bien sûr. Alors, on va parler du 3 dans un instant, parce que c'est simple. Jeff Tuche, il est maire de Bouzol, et puis il voit que le TGV va passer à Bouzol. Il est très content, sauf qu'il passe sans s'arrêter. Il est moins content. Donc, il va appeler le président de la République, qui ne veut pas le prendre au téléphone. Donc, il se présente à la présidence de la République. Il est élu. Contre toute attente,
par
c'est
défaut,
très drôle,
ouais.
Par défaut.
Et racontez la fin.
Non, il meurt tous.
Et c'est super drôle. Alors, je vous ai préparé une interview Tuche.
Alors, si je peux dire juste, le TGV, selon Jeff Tuche, c'est un TGV dans chaque village qui s'arrête.
Oui.
Donc, c'est un TER.
Oui, c'est un TER. C'est vrai,
ça. Ce serait moins à grande vitesse. Ouais.
Allez, une interview Tuche.
Vous écoutez RTL.
RTL.
À la bonne heure.
Stéphane Bern.
Et nous étions avec Isabelle Nanty, Olivier Barou, on parlait de la qualité des frites sur le tournage des Tuches 3.
Ben oui, parce que comme on reprend les scènes, elles sont pas tout de suite du premier coup toujours très bien.
Oui, mais
donc des fois on reprend.
Elles sont vite froides en fait.
Et donc, demander à un réalisateur d'avoir en permanence des bonnes frites.
L'accessoiriste fait vraiment le maximum pour avoir des frites fraîches et tout, mais à un moment donné, elles sont froides.
C'est pas le réalisateur qui les fait.
Non, le réalisateur il n'est pas la friteuse.
Ni moi. Il vaut mieux.
Et sur le 2, on avait des frites en plastique même. Donc,
c'est
pourquoi le cinéma.
Interview Tuche. Vous avez fait beaucoup de choses l'un et l'autre dans votre carrière. Est-ce que dans votre métier, c'est bien vu d'être un peu Tuche à tout?
J'ai entendu une phrase super ce matin. Cocteau disait je ne suis pas Tuche à tout, tout me Tuche.
pas mal. Oui.
Pas mieux.
Déjà, il parlait en Tuche à l'époque. Ouais.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu l'impression d'être dans votre carrière, d'être mis sur la Tuche?
Personnellement, non. Isabelle. Non.
Bah, ça arrive. Hein. Je veux dire, c'est les hauts, les bas, les creux, les.
Mais tout le monde vous réclame. À Tuche et à Cri.
Non, mais c'est l'eau des choses. Hein.
Oui.
Il faut savoir que quand il y a une petite grâce, il y a une petite disgrâce derrière.
Oui.
Ah vraiment?
On vous fait payer trop de succès ou pas? Ça pourrait peut-être arriver.
Tu es très pessimiste.
Oui, elle est un peu pessimiste.
Parce que vous êtes, quand vous n'êtes pas à l'affiche, vous êtes.
À l'affût.
Vous êtes bien metteuse en scène. La mise en scène, vous faites plein de choses.
Isabelle tourne beaucoup en dehors des Tuches. Elle fait des films, des téléfilms pour la télévision.
Heureusement pour elle, parce que les Tuches, ça arrive, c'est que la troisième.
Oui, c'est tous les 2-3 ans.
Alors, dans les films, vous jouez les dialogues tels qu'ils sont écrits, vous permettez de temps en temps des petites retouches?
En fait, c'est des interviews de Johnny.
C'est trop mignon, j'adore cette interview. C'est quand même très écrit.
C'est très
et très bien écrit.
Oui.
Et puis, de temps en temps, nous avons des inspiratuches.
Très bien. Alors, vous êtes connu pour votre humour, mais est-ce que c'est un humour sans limite ou sur certains sujets, notamment vous, Isabelle, vous êtes un peu Sainte Nituche?
Totalement Sainte Nituche.
Ah oui, vraiment?
Ouais, très prude, très. Comment ça s'appelle, là, le puritaine.
Puritaine.
Ouais, protestante. Hein, je suis protestante, n'oublions pas.
Alors que votre fille dans les Tuches 3, elle a pas froid aux miches. Enfin, là.
Ça marche plus là.
Il y a un moment. Oui.
Vous êtes payé au forfait dans les films ou vous touchez vos cachets en fonction du nombre de spectateurs? Ce que je pourrais vous le souhaiter d'ailleurs.
Ah ouais. Je crois que c'est à partir de 2 500 000 que.
Ah, je sais pas.
Vous touchez.
On peut toucher un petit peu.
C'est pas mal, oui. Vous êtes du genre à aller après vous jouez, vous risquez gros, vous allez risquer des sommes dans les casinos par Tuche.
Ah oui, il fallait la chercher.
Ou le PMU.
Ah, au PMU. Ouais. Vous jouez pas au PMU?
Non.
Très bien.
Mais je dépense.
Olivier, vous jouez?
Vous partouchez. Faites attention parce que là, c'est quand même pas exactement la même chose.
Il est content, ça lui a plu cette interview Tuche.
Oui, j'aime bien. On est à
Tuche-Tuche. Comme dans les embouteillages.
On est à Tuche-Tuche. Eh bien, on va se retrouver dans un instant pour parler vraiment des Tuches 3 qui vont faire hurler de rire. C'est sur les écrans à partir de mercredi. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Isabelle Nanty, Olivier Barou pour les Tuches 3. À l'affiche, Jean-Paul Rouve, Claire Nadeau, qui est Mamie Suze, Sarah Stern, Pierre Letin, Théo Fernandez, Khalid El Perra, Philippe Magnan et ça sort mercredi. Alors peut-être l'attention de ceux qui n'auraient pas vu les deux premiers Tuches. On peut peut-être rappeler que les Tuches ont gagné à l'Euromillion. Et puis, ils partent. Le rêve de Cathy Tuche, donc, c'était d'aller à Monaco. Elle est allée à Monaco et on a vu les dégâts.
Son idole, c'est Stéphanie.
Oui.
Elle ressemble assez à Stéphane Bern, en fait.
Vous, c'était aussi votre
idole. J'adore Stéphanie de Monaco.
Mais moi aussi, ça a bercé toute une partie de ma jeunesse.
Elle croit Stéphanie de Monaco à la fin du Tuche 1, d'ailleurs.
Oui. Et là, le numéro 2, vous partez aux États-Unis, parce que coin-coin, le fils, il fait...
C'est un surdoué,
il va faire ses études.
Moi, j'aime bien entendre ce pitch dans votre bouche.
Ah oui, c'est génial.
Moi, j'aime bien parce que vous êtes tranquille.
Premier degré, moi, c'est coin-coin.
Son vrai prénom, c'est Donald, mais c'est Donald, le surnom, c'est coin-coin.
Logique.
Et troisième, et ben voilà, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure, son seul moyen de se faire entendre, eh bien, c'est de se présenter à l'élection présidentielle. Et contre toute attente, justement...
Alors qu'il n'avait pas tellement envie.
Il était à 7% dans les sondages.
C'est en ça qu'il a un point commun avec qui on sait.
Oui, c'est qu'il n'avait pas envie.
Ben non.
Oui. Et il se fait élire.
Ouais. Voilà, par défaut.
Par défaut, ouais. Parce qu'il faut dire qu'il
y a une succession d'affaires.
Il y a une succession d'affaires très, très drôle.
Il y a un débat aussi. Il y a un débat entre le pétage de plomb
du président sortant.
C'est très mauvais.
Mais c'est marrant parce qu'ils ont écrit le scénario bien avant.
Ah oui.
Et l'élection de Trump et les élections en France, puisque nous, on a commencé à tourner en mai.
Ah mais donc.
Le scénario, il était forcément écrit presque avant.
C'est pas non plus un film politique. Enfin,
ben non. Non, si. Si, j'aimerais bien qu'on dise ça.
C'est une critique virulente de Donald Trump.
Ouais, voilà.
Non, ils ont fait attention à ce que ça ne soit ni populiste.
Non, voilà.
Ah oui, non.
Les Tuches, c'est qui, au fond, Olivier ?
Alors, les Tuches, la vérité vraie, c'est que c'est une idée d'un scénariste qui s'appelle Philippe Méchelin et qui s'est inspiré d'un documentaire de la série Striptease sur France 3, et c'est la famille De Becker, pour ceux que ça intéresse d'aller voir sur internet. Et donc c'est une famille belge en fait, et quand on regarde le documentaire, c'est des bouteilles de bière qui traînent dans l'appartement, il y a des chiens, ça hurle, ils se jettent de la nourriture au visage, ils s'engueulent et tout. Et puis à la fin du reportage, on s'aperçoit finalement ils s'adorent, ils s'aiment. Et on finit en larmes quand on voit le reportage. Et donc Philippe s'est inspiré de cette famille pour créer les Tuches. Et il a bien fait parce que c'était une super idée.
Alors c'est vrai que tous les personnages sont complètement caricaturaux, à part Coin-Coin qui est un peu intelligent. C'est vrai que.
C'est une caricature du génie.
Je peux me permettre, tout à l'heure vous avez dit que les Tuches étaient un peu bêtes. Je dirais plutôt ils sont absurdes. Ce n'est pas tout à fait pareil, c'est vrai. Il y a du non-sens et de la poésie dans leur, logique.
Mais la fille, par exemple, elle est un peu...
Elle
se fait avoir facilement parce qu'elle a confiance en tout le monde et
ils sont un peu naïfs
mais à un moment donné surtout Isabelle et Jean-Paul, en fait Jeff et Cathy, eux ils savent très bien quand ils ont affaire des malfaisants, ils savent très bien rebondir.
Ce qui est très drôle, c'est qu'ils changent pas quoi qu'il leur arrive,
immuable. Et ça c'est génial. Et puis du coup c'est plein de bon sens aussi. Par exemple, quand il est sur le chemin de l'Elysée avec les voitures, les motards,
Il faut qu'il fasse le plein
parce qu'il pense qu'il n'aura pas assez d'essence.
Et puis il a de bonnes idées. Une idée que je peux donner, parce qu'elle est dans la bande-annonce, c'est un jour férié avant le jour férié pour se préparer au jour férié. Et un jour férié après le jour férié pour se remettre du jour férié.
C'est pas un gros bosseur, hein.
Non. Il a toujours revendiqué le fait de ne pas travailler. Ouais. Hein, donc lui, c'est un cueilleur-chasseur. Donc pourquoi travailler?
Et puis il y a des choses drôles. Il y a par exemple, vous passez la tête au Conseil des ministres parce qu'il y a quelqu'un qui téléphone qui a un problème de maths. C'est qui le ministre de l'école? Donc il y a le ministre de l'éducation.
Ça parle aux gens.
Et on voit le ministre qui sèche sur un problème pour résoudre un problème de maths.
Tous les parents, sauf ceux qui sont agrégés en maths, évidemment. C'est son expérience de mère qui lui sert à être en fait utile.
Mais c'est plein de bon sens.
Elle fait la lessive.
C'est
le jour du blanc.
Je lance une machine de blanc.
Et le truc, par exemple, avec le grand chef, le chef cuisinier, c'est vrai que vous voulez manger des frites. Est-ce que quelqu'un sait comment on fait les bonnes frites?
Ben ouais.
Et en fait, ils savent pas.
Alors moi, secrètement, je pense que Cathy Tuche ne fait pas des bonnes frites. Mais quand vous êtes habitué à manger des frites à votre façon, vous voulez qu'elles soient faites à votre façon.
Exactement.
Donc c'est quand même un meilleur ouvrier de France hein, qui
sûr,
a l'affaire.
Et
donc elle va lui apprendre.
Les frites, bah, il
oui.
faut que ça soit un peu prétentieux.
Ouais, bien voilà. sûr.
C'est alors qu'elle veut du basique, peut-être oui. un peu gras. Il bon, y a quand même toujours ces deux températures de cuisson.
Bien sûr.
Mais c'est vrai, c'est la vraie, c'est ça.
Bien sûr. Et avec du blanc de bœuf. Pas voilà. d'huile. Mais malgré tout, il faut que ça soit quand même un peu grand.
Je crois oui. que vous êtes encore dans votre personnage, Isabelle.
C'est moi, je suis porteuse d'un savoir, qui est le savoir tuche.
Oui, c'est ça, vous avez appris.
Voilà, l'expertise en frites.
Voilà.
Vous écoutez RTL.
À la une, le web de Cyprien Simon.
Ah, justement, Cyprien.
Désolé de vous.
Justement, bah oui, alors il n'y a pas que Jeff Tuche hein, qui devient président improbable. Vous savez qu'on en a des vrais aussi, hein.
De la République.
Et si Gérard Lenormand a échoué à caser Mickey Premier ministre, Donald, lui, a réussi à toucher carrément la présidence. Le milliardaire Donald Trump, évidemment, expérience politique zéro avant de devenir président. Les États-Unis décidément friands de ses parcours improbables jusqu'au pouvoir suprême, puisqu'en 81, c'est un acteur qui fut porté à la présidence. Oui. Et quel acteur? Ronald Reagan, évidemment, qui fit le bonheur des westerns de seconde zone dans les années 40. Ah, ce sont les bruitages de bagarre, oui. Bam.
Il a pas été un mauvais président, finalement.
Ah bah non, mais attendez, je ne juge pas de la qualité du président.
Mais t'es réélu.
Reagan qui a ensuite multiplié les pubs improbables dans les années 50. Ah oui.
Ceci est un radiotransistor 2. Il ne pèse que quelques grammes et vous pouvez le glisser dans votre poche.
Oui, il parlait bien français.
Il est très bien doublé, mais ce sont des vrais pubs. Hein. J'en passe et des meilleurs avant de se laisser porter par un destin politique. Gouverneur de Californie d'abord, puis donc président des États-Unis ensuite. D'ailleurs, le coup de l'acteur qui devient gouverneur de Californie, ils nous l'ont refait les Américains, oui. avec Schwarzy. Terminator devenant gouvernateur en 2003. Mais les Américains n'ont pas le monopole. Au Brésil, bien que plus conventionnel, le parcours de l'ex-président Lula mérite d'être souligné. Oui, Lula, c'est... L'internationale ouvrière à la présidence, car avant le palais de la République, Luiz Inácio Lula da Silva a démarré tout en bas de l'échelle, tourneur dans une usine automobile à 14 ans, ouvrier métallurgiste ensuite. Il y perdra d'ailleurs l'auriculaire gauche, broyé par la machine, avant que la machine gouvernementale et la corruption ne finissent par le broyer et broyer sa carrière. Plus récemment, au Liberia, c'est un footballeur qui est devenu président.
George.
Et oui.
Oh, il est passé. Oh, quel but. Il est passé. Oh, quel but. Quel but. George Vincent. Oh,
ça est pourrait passer, il est passé.
Oh, quel festival, George Weah.
Ah, ça, c'est un festival.
Ah, ça, c'était pas tant. George Weah, du PSG au Milan AC à la présidence du Liberia. Enfin, en France aussi, on a une sorte de Jeff Tuche. Bon, alors, il n'a pas été jusqu'à la présidence de la République, mais il a fait la présidence de région et même plusieurs fois ministre. Tout cela avec comme diplôme celui de champion de moto.
Ah bah oui,
et
ah
oui,
bah
oui, Christian Estrosi, autodidacte, ouais. que les mauvaises langues qualifient
motodidacte.
De motodidacte, exactement. C'est vraiment une mauvaise langue. Hein. Ici, dans un reportage.
Hein, c'est lui qui a inventé ce surnom.
Ça m'étonne
oui,
pas.
Une biographie qui a inventé ce nom.
Le motodidacte, dans un reportage de 77, écoutez.
Vous êtes quoi?
Le 12, Christian Estrosi s'était montré le plus rapide aux essais. Au 6e tour, Estrosi prend la tête à son coéquipier.
Ça fait 3 semaines que nous n'avons pas couru sur les 750. Les préparateurs ont eu le temps de se donner à fond.
Champion de France de moto, il a même été coureur sur les championnats du monde, sur Yamaha, à fond le maire de Nice. Alors méfiez-vous Stéphane, personne n'est à l'abri de se retrouver un jour sous les ordres de la République.
Encore faut-il
je dis
le
ça,
vouloir.
Je dis rien.
Encore faut-il le vouloir.
Ah bah Jeff Tuche le voulait pas.
Bah oui, mais il y a les gens de la salle aussi qui auraient...
Et paraît-il, d'après le livre de Trump, il ne voulait pas non plus.
Non,
il
voulait
pas. Après, il a fait tout pour.
Il a tout fait pour. Bah, on voit bien qu'elle pleure, elle, quand
les pubs de Reagan, on aurait dit des parodies que vous faisiez avec Cadet Olivier. Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Cyprien Signé. On va retrouver dans un instant nos invités Isabelle Nanty, Olivier Barou pour on parlait des Tuche 3 et puis ça va être le vrai faux des invités.
Ah.
Vous écoutez RTL.
Le vrai faux de l'invité.
Alors, vrai faux de l'invité, c'est simple. J'interroge mes petits camarades avec Patrice sur votre vie. Moi, je m'occupe du dossier Isabelle Nanty. Patrice, vous vous occupez du dossier Olivier
Barou.
Très bien. Isabelle, qui est actrice, comédienne, metteur en scène et qui a beaucoup enseigné, était pourtant enfant atteinte de dyslexie. Ça a été très handicapant pour elle.
Non, c'est faux.
Vrai, allez, je tente le vrai.
C'est vrai ou faux?
Vrai.
Qui gagne?
Vrai.
C'est vrai.
Ah ouais.
Dyslexie, dyscalculie, dyscalculie
aussi.
C'est tout.
C'est quoi la dyscalculie?
C'est des troubles de l'apprentissage en fait. C'est des voilà. Je suis à l'envers, un peu. J'ai le cerveau à l'envers. Comme ça. Et d'ailleurs, ça a été un vrai handicap pour le cinéma, par exemple, où je ne suis pas coordonnée. Donc, oui. Ça va, le texte et le partenaire, mais si on me rajoute déplacement plus un objet, alors là, il n'y a plus personne.
Ah ouais.
Donc, il me faut, il me faut au moins deux, trois prises pour que tout s'aligne, en fait.
Après, ça roule. Hein, donc, voilà.
Bon, Patrice.
Alors, on va aborder carrément la vie privée.
Olivier Barrault était une femme en 73. Olivier Barrault était une femme en
72.
Et comment il a rencontré justement sa femme? Justement, il travaillait dans la même boîte et ils sont partis comme ça. Ils sont dit, tiens, si on partait en vacances ensemble, mais ils n'étaient pas du tout ensemble, ils étaient amis. Donc ils sont partis en vacances et quand ils sont revenus, ils étaient à la colle.
N'importe quoi.
Voilà. Alors, ça doit être fou parce qu'on a entendu n'importe quoi.
Elle est toute pourrie,
votre anecdote. Une chambre.
C'était l'occasion d'entendre à la colle que j'avais pas entendu depuis fort longtemps.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on n'entendait pas
cette expression. Ouais. C'est comme les surpattes.
Ils se sont rencontrés en vacances.
Oh. Non, c'est vrai, on se connaissait, on était collègues de bureau et on était tous les deux fatigués. Je lui dis, écoute, viens, on part en Martinique tous les deux. Il me dit quoi? J'ai dit, mais si, viens, on est copains, tu sais très bien qu'il va rien se passer, ça va, c'est bon. Et on est parti en Martinique et voilà, et puis.
Traître.
Et puis voilà, on est revenu.
Vous n'aviez aucune idée derrière la tête.
Non, franchement.
Je le jure.
Je le jure.
Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais il s'est passé qu'à un moment donné, voilà, alors un verre de rhum, le soleil, la plage, et puis on s'est dit, écoute, on s'entend bien, ça fait 6 mois qu'on se connaît.
Et depuis, la fête ensemble, toujours en Martinique, d'ailleurs.
Voilà, voilà, tous les ans, on est obligé de retourner en Martinique.
Ça fait combien de temps?
Ça va faire 22 ans maintenant.
Voilà. Ah, c'était pas une jolie anecdote?
Incroyable.
Ah,
ouais,
pas mal, bravo.
J'en ai pas des comme ça, je vous rassure.
Il y a trop de risques.
Enfant, parce que vous savez, dans le film, elle aime le veau, mais enfant, Isabelle rêvait de devenir fermière. Elle avait notamment une passion pour les veaux.
Ça, c'est vrai.
C'est beau.
Ça, c'est vrai.
Elle opine du chef, donc oui, vrai.
Ouais. Une passion
pour les veaux. C'est vrai.
Ah ouais. J'adorais aller traire les vaches. J'adorais l'odeur du purin.
Ah, c'est vous?
Ouais, c'est moi. Et c'est très difficile de s'en défaire. Donc, mes parents m'avaient demandé d'avoir des affaires spéciales pour quand j'allais chez la fermière en face.
Ah oui.
Donc, je mettais des affaires spéciales, je me changeais pour le dîner, mais mes cheveux sentaient encore, donc je mettais le guirlain de ma mère par-dessus. Donc, tout ça était...
Ah, c'est drôle.
Mais vraiment, j'aimais ça, sincèrement.
Rien de Volvo.
Il faut qu'on y pense pour un
bravo,
si
le
on fait un touche 5 ou un touche 4. Et...
Ah mais moi, j'adore aller à la ferme.
Moi, j'adorais ça, quoi.
Un nouveau personnage, un veau.
L'amour est dans le pré, du coup, vous regardez?
Non.
Non?
Non.
Pourtant, ça vous emmène à la campagne aussi.
Alors, Patrice. Alors, ça existait pendant quelques années. Après, ça a été supprimé. Il y a eu un championnat de France de flipper et Olivier a été champion de France de flipper.
Ah, ça m'étonne pas, ça.
Ouais, il a une tête de champion de France de flipper.
Ouais.
Je fais poker face. Là, je sais pas.
Allez, je pense que tu joues au flipper, mais t'es pas champion de France.
Champion de France de flipper.
Je pense. Il y a des champions. Je savais pas.
Il y a des championnats. Le premier championnat a eu lieu en 71, en fait. Ouais.
Ça affine la réponse. Non, vous êtes vice-champion de France. Vice-champion.
Non, la réponse c'est que je sais faux. Je suis nul au flipper.
Ah non.
Vous
avez eu tout notre respect pourtant.
Isabelle, vous savez, a été longtemps atteinte de TOC. Elle revenait chez elle en vitesse pour être sûre qu'elle avait bien éteint le gaz ou l'électricité. Mais elle a réussi à se soigner. Vous savez quelle méthode elle a utilisée? Celle de la checklist, vous savez, que vous faites tout comme les commandants de bord quand ils sont dans l'avion.
Donc on verbalise. Hein,
ils disent... gaz éteint, électricité éteinte,
bougie soufflée, clé rentrée,
c'est une bonne
poche
méthode.
Gauche,
Ma sœur fait ça.
Votre sœur fait ça.
Non,
la
mais
sœur
c'est...
de Cypriacini. Quel est son prénom?
Marie, son anniversaire Marie. Aujourd'hui en plus.
Ah, bon anniversaire, ce berceau. Ça doit être
aujourd'hui,
une bonne
anniversaire.
Personne.
C'est ça, oui.
Bougie soufflée. Non, mais c'est marrant. Mais
c'est une bonne méthode.
Ouais.
Je trouve ça bien.
Mais je crois que c'était un psychologue qui m'avait dit de faire ça.
Donc c'est vrai.
C'est comme petite astuce. Quand vous avez du mal à vous endormir parce que vous avez trop de choses dans la tête, vous les notez sur un papier. Comme ça, vous déposez les choses de votre tête sur le papier. Vous savez que vous les retrouverez demain matin. Et ça permet de se vider.
L'idée de les retrouver le lendemain matin, après, m'empêche de dormir.
Mais justement,
tu dors à côté d'un papier plein d'emmerdes.
C'est pas faux.
Bah, vous pouvez le planquer quelque part ou le mettre à la poubelle. Comme ça, symboliquement, vous avez mis vos soucis.
C'est joué des colliviers, et avec Cap d'ailleurs, à l'origine de l'émission de Daveline Thomas, C'est mon choix.
Bah, je vous remercie dans ce cas. Salaud.
Vous savez qu'il a travaillé avec Jean-Luc Delahaye.
Oui, bien sûr, il est parodié même dans ses émissions, ses propres émissions.
Enfin, qu'on a travaillé avec Jean-Luc, c'est vrai, oui.
Et c'est mon choix, non ?
Non, c'est faux.
Non, ils ont parodié.
Non, 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 mais en fait, c'est faux. Hein. C'est faux, c'est complètement faux. Mais pendant une interview, il y a très longtemps, on avait déconné avec Cad et le journaliste nous a dit qu'est-ce que vous avez. Vous en êtes où avec Jean-Luc ? Mais on s'est quitté bon ami et puis avant de partir, on lui a pondu le concept de c'est mon choix. Et donc, c'est resté encore sur.
Alors, c'est faux.
C'est un garçon qui s'appelle Stéphane Rack.
Oui, Stéphane Rack, exactement.
Vous écoutez RTL.
Stéphane Bern.
À la bonne heure.
Sur RTL.
Ça balance pas mal. Ça balance pas mal. Alors, on a affaire à la famille Tuche, qui est une famille qui s'aime. Ouais. C'est ça qui me touche, c'est que... qui me touche avec les Tuches, c'est qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont... Le fils, il est un peu gnangnan. Il est un peu...
Il est poétique. Il est disconnecté.
Oui, il veut qu'il soit bête et dingue.
Oui.
Non, mais il est disconnecté.
Il est léger.
Oui, il est un peu léger. Alors... Et un petit quiz sur la grande famille du cinéma à laquelle vous appartenez. C'est vrai que c'est une grande famille où tout le monde est censé s'aimer, mais ce n'est pas forcément le cas.
Ah.
Alors, de qui parle Tony Marshall ? C'est quand même une fille qui se mouche 19 fois dans le même Kleenex pour ne pas gâcher les arbres. Ensuite, elle le referme, elle attend que ça sèche et elle s'en resserre.
Oh. Quelqu'un qu'elle aime bien, en tout cas. Oui. Avec qui elle a tourné déjà ?
Une actrice qui dit
je ne prive pas de dire du mal des autres.
Catherine Deneuve ?
Non.
Écolo.
Anémone. Oui, bien.
J'ai tourné avec Anémone.
Oui.
C'est très intimidant parce qu'elle est tellement vraie.
Oui.
Ouais. Elle est incroyable. C'est une actrice géniale.
Oui, particulière, c'est sûr.
C'est très impressionnant. Mais c'est, vous savez, les misanthropes. Ce sont des grands romantiques, en fait. Oui. Ce sont des... Comment on appelle ça ? Presque midinettes, des fois.
Oui. Je crois, Isabelle, vous confondez Anémone et Tati Daniel.
Mais Anémone, vraiment,
moi, j'ai
adoré travailler avec elle.
Elle a toujours été charmante. Qui a dit, parfois, on écrit des conneries, mais après, on est obligé de les tourner.
Un réalisateur, forcément.
Oui. Qui doit tourner beaucoup de conneries, du coup.
Qui est de très bons films.
Ah, de très bons films.
Le Comte, Gérard Rouy.
Non,
le comte
fils d'un grand acteur, allez.
Ah oui, Audiard.
Bertrand Blier. Le rêve de Robert Bresson, c'est de tourner sans pellicule, sans acteur, sans paysage, un film inexistant. Qu'il se rassure, c'est ce qu'il a toujours fait.
Alors ça, c'est
soit un critique.
Soit c'est un critique, c'est peut-être Janson.
Bonne réponse. Ah. Eh bien, c'est Régis Maillot.
Quelle culture.
À Cannes, on rencontre tous les gens qu'on évite le reste de l'année.
Ça, c'est vrai.
Ça, c'est une actrice.
Non, un réalisateur.
Un réalisateur
controversé.
Audiard.
Polanski.
Polanski, bonne réponse. Qui a dit à propos d'Alain Delon, il ferait mieux de tourner des films et de finir comme Clint Eastwood plutôt que de parler politique ?
Alors là, il y a
plusieurs personnes.
C'est Brigitte Bardot.
Quelqu'un qu'il connaît très bien.
Quelqu'un qu'il connaît bien.
Ah, Béry Dark.
Son fils, Anthony Delon. Bonne réponse.
Waouh.
Il ne faut pas dire du mal des morts, mais mon temps, c'était un con.
C'est génial. Qui a dit ça ?
Grand chanteur aussi.
Grand chanteur. Reggiani.
Reggiani, bonne réponse.
Ah ouais, c'est drôle.
De qui parle Piala quand il dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il est mauvais, c'est tout.
Ah oui,
c'est triste.
Par un acteur, forcément.
Oui, c'est dans Police qui avait reçu une cafetière. Piala lui avait envoyé une cafetière dans la tronche.
En Conina.
Waouh.
C'était violent.
Mais Piala était.
Ouais, mais je crois qu'en Conina, c'était révolté du mauvais traitement et tout ça. Et que c'est assez rare que quelqu'un ait le courage de se positionner comme ça.
Et le dernier. En France, on ne prend pas des acteurs parce qu'ils sont bons acteurs, mais parce qu'ils font bien la promo. Il est plus important de savoir parler d'un rôle que de l'interpréter.
Qui a bien pu dire ça ?
Dominique Besnéard.
Non, un grand acteur qui a joué Louis XVI, d'ailleurs. Oui.
Tu as joué Louis XVI ?
Oui. Balmain,
absolument. Ouais. Voilà, cet extrait du Dico Vache du cinéma aux éditions Nouveau Monde. Mais vous, Olivier, quand vous avez commencé à faire des films, oui, ils n'ont pas dû vous faire des cadeaux.
Ah non, non, non. Bah oui, non, mais c'est plus pas trop dans le métier, c'est plus les critiques.
Les critiques,
ouais, voilà, les critiques, ouais, qui se sont un peu lâchées, quoi. Voilà, mais
surtout quand on fait du populaire.
Ouais, voilà. Ouais. Et puis moi, j'ai comme un certain caractère, donc si on m'agresse même par voie de presse, j'ai plutôt tendance à aller voir la personne. Et...
Ah oui, ah oui. Ouais. Vous avez des rencontres. Ah
non, j'irai voir la personne et je dis bon, expliquons-nous. Tu vois.
Ah, ah ouais, ouais.
Un peu la Patrick Devers, tu vois, c'est bien.
Je n'aurais pas dû.
Ils sont prévenus.
Le taper. Ah oui, c'est drôle. J'aurais dû plutôt le disputer.
Qu'est-ce qu'il était fort.
À propos, ah ouais, on va retrouver dans un court instant Régis Maillot pour VDB.
Vous écoutez RTL.
VDB, la vie de Berne.
Régis Maillot.
Le salon du mariage s'est déroulé ce week-end, porte de Versailles à Paris, et a rassemblé plus de 200 exposants. Approchez, approchez! Il y en aura pour tout le monde. Stéphane Bern, spécialiste des baronnes en friche et des mariages consanguins, propose animation en tout genre, jarretière de mariée, selfie, imitation de Mireille Mathieu. Pour tout achat de 3 kits mariage Stéphane Bern, une animation bar mitzvah est offerte. Qu'est-ce que vous faites là, patron, là sur cette estrade? Je tapine, Maillot, je tapine. Enfin, depuis quand vous faites des ménages? Je n'ai pas le choix, Maillot, j'ai des frais. Je me suis endetté à vie à cause de la restauration de mon château à Tirongardet. Cette ruine que j'ai eu la bêtise d'acheter, je n'ai plus le sou, je ne suis pas certain de pouvoir terminer le mois. J'ai à peine de quoi faire le plein de mon jet privé. Payer les traits de l'acropole bis que je fais construire dans mon jardin en Grèce.
L'acropole.
J'ai même dû licencier le petit Delgado qui s'occupe de me couper les ongles des pieds le matin.
Non.
Oh, Delgado, je savais pas que vous étiez à ce point sur la paille. Mais j'ai peur, Maillot. Le pire, ça serait de finir. Et de finir comment? Ben comme toi. Habiter en banlieue parisienne.
Ah, non.
Je crois que je ne le supporterai pas. Bon, ça va, j'habite juste à côté du périph. Oh. Ne prenons jamais ce mot devant moi. C'est comme si tu me jetais de l'acide au visage. Allez, aide-moi. Aide-moi au lieu de me juger. Et vous faites quoi comme prestation de mariage? Mais je fais tout, maillot, robe de mariée, costume, chaussures, accessoires, coiffure, beauté, alliance et bijoux. Oh la vache, c'est complet. Mais tout est décliné sous la marque Stéphane Bern. Regarde, regarde, c'est ma plaquette commerciale. Vous avez toujours rêvé d'un mariage de princesse? Adressez-vous au spécialiste des têtes couronnées, Stéphane Bern. Ah, c'est poyot hein, comme concept. Hein. Et sinon, vous vous occupez également de la soirée de mariage? Évidemment! J'ai un service traiteur, photos et vidéos, décorations et fleurs, accessoires de fête, vin et champagne, véhicules de prestige. Oh bah, c'est impressionnant. Et en plus, vos tarifs, là, sont hyper compétitifs. Je vais pas te mentir, j'ai des petites astuces. Pour tout ce qui est animation et DJ, je fais bosser Carmouze. Ça lui permet de s'entraîner pour son quiz et je fais payer l'addition par RTL. Ah, c'est bien ça. Et pourquoi vous n'avez jamais proposé de faire des animations comiques? Parce que tu n'es pas drôle, Maillot. Je ne peux pas me permettre de décevoir mes clients. Cesse de m'interrompre. Les dragées, les chocolats, j'ai un partenariat avec mon pâtissier de quartier. Vous faites un prix? Non, c'est lui qui me paye. N'as-tu jamais observé que je cite son nom 3 fois par semaine à l'antenne? Idem pour le traiteur. Oh la vache. Et voyage de noces? Rien de plus simple. Je détourne les cadeaux qu'on fait gagner aux auditeurs. Ça, c'est mon stock d'alliance royale. Je les pique dans les châteaux lors des tournages de Secret d'Histoire. C'est un génie, patron. Dites-moi, c'est quoi la formule Prestige plus plus? C'est la défloraison. Quoi? Je propose de déflorer en personne la jeune mariée. Et le mari, il dit rien? Évidemment que non. La plupart du temps, il assiste à la saillie. Sais-tu que dans certaines régions reculées, mon aura d'animateur vedette est si grande que la famille entière de la gourgandine en tire une grande fierté? La vidéo est d'ailleurs souvent diffusée pendant les fêtes de la moisson. J'ai engrassé plus de fermières berrichonnes qu'un régiment de soldats allemands. Bonjour, madame. Si vous cherchez une soirée un peu originale, je loue mon collège royal. Oh, c'est bien ça. Vous louez aussi votre maison de paroisse? Oui, elle est très prisée. Pour les mariages? Non, pour d'autres types de fêtes que je préfère garder secret. À la bonne heure.
ben voilà, je suis habillé pour l'hiver.
On a bien fait le tour.
Hein. Ouais, on a fait le tour de la question. Comme il disait, aujourd'hui c'est gentil.
Ouais. Oui, c'est oui, parce que d'habitude,
ah ouais, c'est,
d'habitude c'est plus violent.
Ouais. Ben, ça, il me traîne plus bas que terre. Hein.
Ah ouais. Ouais.
Vous trouvez ça drôle ?
Oui, ouais, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle et je trouve ça super que tu rigoles à genre de.
Bah oui, c'est pas le choix, c'est super. Pas
moi, je le prendrais très mal personnellement.
J'irai le voir après l'émission. En tout cas, on va continuer à parler des tuches dans un instant. Mais c'est vrai que c'est délirant, ces tuches 3, parce qu'il y a des scènes vraiment. Alors, ça a été tourné. Il y a une ou deux scènes, j'ai reconnu l'Élysée.
S'il connaît bien,
rien.
Rien n'a été tourné
à l'Élysée.
Non,
c'est bien
dire,
fait.
Bien sûr,
hein.
Ouais,
château de voisin,
bien château de voisin près de Rambouillet.
Ah oui, très bien. Oui. Voilà. Là où il y a une chasse aux faisans.
Exactement.
La pause. Exactement. Ils font des tableaux de chasse incroyables.
Je déteste.
Ouais. Ah oui, le maréchal Pédé.
T'inquiétez, dans les faisans.
Vous avez été les faisans après Vichy. Et après, on les lâche.
Tendez le bâton pour faire battre. Là où il y a une chasse aux faisans. Mais après, il ne va pas vous étonner que ce soit dans VDB.
Non, mais je ne chasse pas.
Le thème de la prochaine.
Voilà, ma chasse aux faisans.
Ma chasse aux faisans.
Je vais vous dire.
Chemin faisant.
En France, il y a beaucoup de faisans qu'on ferait bien de chasser. Enfin bon, bref. Et pas ce genre-là. Pas plus.
Donc, on disait
que ça n'a
pas été tourné à l'Élysée. Mais par contre, ils se sont fournis du vrai gravier qu'il y a, et donc d'où toute la véracité, du vrai gravier qui tapisse la cour de l'Élysée. Et Perrine, notre décoratrice, a fait un très beau boulot.
Alors, c'est super. Ouais. Ah, bravo. Les Tuches 3, ça sort mercredi. On se retrouve dans un instant pour la suite de la bonne heure. Éric Dussard est prêt pour son zapping télé. RTL, il est midi.
Une nouvelle fois, grâce à vous, RTL se classe première radio de France sur tous les indicateurs et réalise sa meilleure rentrée depuis 15 ans.
Merci à vous et aux 6 500 000 auditeurs qui font chaque jour le succès de RTL.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite.
Il est midi, passé de 4 minutes sur RTL et vous êtes en compagnie de Stéphane Bern.
Absolument, merci beaucoup Quentin Vinet. On va retrouver Isabelle Nanty et Olivier Barou pour cette semaine qui pour eux est une semaine importante, c'est les Tuches 3.
On a mis quelques mois à préparer, à concocter un bon plat. Enfin, on espère. On a mis les ingrédients qu'on aime bien. Voilà. Maintenant, est-ce que à la dégustation, les gens aimeront ? On espère qu'ils viendront, qu'ils auront envie de déguster ce repas et qu'ils seront contents.
Oui. Mais ce qui est drôle, c'est même tout le monde joue le jeu dans le film. Il y a des gardes républicains
d'autres petits rôles, enfin des petits rôles. Il n'y a pas de petits rôles en l'occurrence dans les Tuches 3, mais il y a des rôles importants comme Yann Papin, le chef cuisinier, Pierre Samuel, le créateur de mode, Éric Carra, le garde du corps de Pierre Letin et tout. On se retrouve de très bons comédiens.
Le photographe
Bord, Philippe Vieux.
Salut Delpera qui fait le Premier ministre. Nicolas Maury.
Voilà. Nicolas Maury aussi, Magnan. Bien sûr, l'amoureux de Stéphanie qui joue dans 10% aussi.
Ils sont tous excellents.
Vous allez beaucoup rire. Alors on va retrouver Éric Dussard dans un très court instant maintenant.
Vous écoutez RTL. À la bonne heure. Éric Dussard met la télé sur écoute.
Alors, on commence avec le retour du week-end.
Et oui, samedi soir sur TF1, c'était le retour de The Voice, lancement de la 7e saison. Ça a commencé très très fort avec par exemple cette candidate colombienne qui a repris un tube de Rihanna, Rude Boy. Alors elle, il ne lui aura pas fallu plus de 3 secondes pour que deux jurés se retournent. Come on, Rude Boy, boy, can you get it up?
Écouter en fait comme ça.
Ben oui, on fait les vraies auditions à l'aveugle, vous voyez, à la radio, puisqu'on n'a pas l'image. Alors vous le savez, la grande nouveauté cette année, c'est l'arrivée de Pascal Obispo dans le jury. Et il a eu un cadeau de bienvenue pour ce premier prime. Une jeune fille de 19 ans, Rebecca, a chanté devant lui l'un de ses plus grands tubes. En l'occurrence, ce tube, c'est Lucie. C'est pas marqué dans les livres que le plus important
à vivre est de vivre au jour le jour. Et il s'est retourné, lui.
Ah ben bien sûr, en larmes.
C'est de l'amour. C'est sûr, c'est une chanson que j'ai chantée ça fait partie de mon histoire. Donc moi, ça m'a touché. En plus, tu l'as chanté d'une manière très, très sobre.
Ma mère, elle m'a toujours emmené voir vos concerts. Et,
Attention, quand on commence à dire ma mère aime beaucoup ce que vous faites, c'est mauvais signe.
Grand-mère.
Et sa grand-mère, déjà, ouais. Y allait.
Ouais. Ah bah, c'est sûr, cette chanson commence à se rapprocher de l'âge d'une autre Lucie, hein, l'Australopithèque, évidemment. Hein, bon. En tout cas, bon, c'est une arrivée réussie pour Pascal Obispo dans le jury. À un détail près, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est que la production a monté ses propos, mais alors à la tronçonneuse.
Ah bon?
C'est-à-dire qu'on avait parfois l'impression d'écouter la voix de la SNCF. Vous savez, quand on nous dit le train pour Marseille partira à quai B, 18h34, ils ont reconstitué des phrases comme ça en montage, c'était un peu violent parfois. Mais samedi soir, il y avait aussi de la musique sur France 2, la finale du concours de sélection du candidat français à l'Eurovision. Même producteur que The Voice, ITV, même studio d'ailleurs que The Voice, mais pas exactement la même audience. 6 400 000 personnes pour The Voice sur TF1 contre seulement 1 800 000 personnes devant Destination Eurovision qui était présentée par Garou.
Le public français a choisi. Merci, madame, monsieur.
Je suis né ce matin. Je m'appelle. Merci.
Très 80.
Non. Marie-Myriam a de beaux jours devant elle. On verra bien si on leur dit merci le 12 mai.
Je vais pas défendre mon casque qui est l'Eurovision, puisque c'est moi qui présente.
Non, mais on peut regarder ça
en direct de Lisbonne. Et simplement pour vous dire, maintenant les Français ont choisi.
Oui, c'est la France.
Donc là, maintenant, on va défendre notre.
Mais est-ce que c'est pas vous qui portez la poisse?
Madame, monsieur, merci.
Méchant.
C'est le choix du public. À la base, le jury international avait choisi un tout autre candidat, Lisandro, qui lui, honnêtement, avait un titre qui était beaucoup plus calibré pour l'Eurovision. Ouais. Lisandro, il a gagné The Voice l'an dernier.
Ouais.
Il avait un show qui avait toutes ses chances à l'Eurovision. On verra si ce titre qui est un très bon titre, madame, monsieur. Mais est-ce que c'est un titre Eurovision?
Il y a eu un gamin qui ressemblait à Vianney aussi, qui était pas mal.
Oui, mais alors lui, il n'est pas allé jusque.
Et alors Lisandro, il n'ira pas non plus, du
il
coup.
Il n'était pas là.
Lisandro n'ira pas, non, puisque le public a choisi. Le jury international avait choisi Lisandro.
Ah ouais,
et le vote du public a fait basculer en faveur de madame, monsieur, donc qui interprétera Merci sur la scène de l'Eurovision
vous avez voté
le 12 mai.
Samedi
Non.
Et là, j'avais pas le critiquer.
Je critique pas. Moi, m'intéresse.
C'est très bien.
Moi, je sais qui il fallait envoyer à l'Eurovision pour être certain de gagner.
Ou pas.
C'est Jean-Michel. Ce chanteur incroyable que vous aviez créé avec Kad, Olivier. Alors lui, il aurait été parfait.
Sur la compil des chanteurs inconnus, Jean-Michel
Voiture. C'est Voiture.
Il ne connaît pas bien les paroles de sa chanson préférée. C'est Jean-Michel à peu près. Il croit que tout le monde connaît ses chansons. C'est Jean-Michel, à vous.
J'ai pas trouvé le temps, à vous.
Sa mère, c'est Véronique Sanson. Son père, c'est Davico.
Mais ça, vous venez d'où toutes ces idées de Jean-Michel? Parce qu'il y en a eu pléthore. Hein.
Oui, 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 il y en a encore plein d'autres. Il y a Nulangéo.
Nulangéo, la tour de piste de Montréal.
Ouais, voilà, la tour de piste de Montréal. Mais ça, c'est, vous connaissez ça, c'est l'exigence de fournir.
Et il faut produire. Hein.
Produire. Ouais, tous les jours, il fallait faire 4-5 sketchs dans la grosse émission. Donc le matin, petit déjeuner, allez, vas-y.
Et Jean-Michel Larsen, il n'arrive jamais à régler son envie.
Mais qu'est-ce qu'on riait? Moi, je sais pas, j'ai. Je devais débuter et je suis allé une fois.
Enfin, nous aussi, on riait aussi beaucoup. Tu étais venu nous voir avec une émission.
Rue Pierre Demour.
Oui, Pierre Demour. Comédie à l'époque. Je dis Jean-Michel à l'Eurovision, là, on a toutes nos chances.
Oui, c'est sûr.
Marie-Myriam.
J'en profite pour dire quand même un truc qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que le fait que ça soit Olivier Barou, le metteur en scène des Tuches, ça apporte énormément quand même. C'est lui le metteur en scène. Et donc, il insuffle de cet esprit surréaliste et absurde et non-sens. Et par exemple, si on amène une petite idée, Olivier la transforme toujours en une grande idée.
C'est gentil, Isabelle, merci.
Alors, voici un acteur maintenant qui porte bien son nom.
Oui, c'est un acteur américain qui s'appelle Armie Hammer. Hammer en français, ça veut dire
marteau.
Et effectivement, il a eu un petit problème avec son marteau sur le tournage de son dernier film. C'est ce qu'il a expliqué à Yann Barthès sur le plateau de Quotidien.
Oui, alors effectivement, les shorts étaient très courts. C'est tout ce que je dirais d'ailleurs.
En fait, les shorts étaient tellement courts que les testicules d'Armie sortaient tout le temps. Alors, en montage, ils ont effacé, mais je dois dire.
Vous êtes tout rouge.
Je dois dire que je ne m'attendais pas forcément à parler de mes couilles aujourd'hui.
Bienvenue à la télé française.
Isabelle Carrère, très intéressée. Armie Hammer. Armie Hammer, c'est le nom de cet acteur américain. Bah, dans un film qui s'appelle Call Me Your Love ou quelque chose comme ça qui sort mercredi prochain, je crois. Mais c'est vrai qu'on a, peur de rien à la télé française comparée à la télé américaine. Et ce n'est pas nouveau. C'était déjà le cas dans les années 80. Vous vous souvenez de la séquence Playmec dans l'émission de Christophe de Chavannes?
Ah oui, très bien, l'après-midi. Très bien. Je sais ce que tu vas dire.
Ah oui, parce qu'il y a un secret terrible. Playmec, ah, c'était des mecs qui venaient faire un striptease sur le plateau de l'émission de Christophe de Chavannes, à l'époque sur Antenne 2. Et alors, ils se déshabillaient. Oui, et alors, on a connu Patrice et on a connu d'autres personnes, oui, moins recommandables. C'est ce qu'a révélé Christophe de Chavannes sur le plateau de C'est à vous sur France 5.
Dans votre émission C'est encore mieux l'après-midi, on a pu voir des hommes dénudés.
Ah, le Playmec. Bon, alors, je ne suis pas particulièrement attiré par les garçons en slip, mais c'était une idée de Dominique Cancin qui était une bonne idée. Mais on a eu quelques faits divers. Je vous rappelle de l'affaire Thierry Paulin, qui était atroce, ouais, avec ces deux mecs horribles qui égorgeaient les vieilles, etc. Ouais. Mais je sais qu'on l'a eu en Playmec.
Non, ah, oui. Ouais.
Thierry Paulin.
Oui, Thierry Paulin.
Non, mais comme quoi, on en faisait quand même beaucoup plus de choses à la télé dans les années 80. Non, on avait plus d'audace, il n'y a pas à dire. Hein.
Ouais. Et l'image qu'ils ont passée passé sur France 5 ce jour-là.
C'était vraiment lui ou pas?
C'était vraiment lui.
Ah ouais, parce qu'il y avait un doute, Christophe, à ce moment-là.
Parce que moi, j'avais vu qu'on ne l'avait pas appelé Thierry non plus. Thierry Paulin.
Ouais, ridicule.
Et on termine avec
ça. Ça détermine.
Bah oui. Forcément, si j'avais été avocat.
Tout ce que dit Patrice, de toute façon, est parole d'évangile. Vous savez.
Je peux continuer,
s'il vous plaît.
Oui. Et on termine avec celui qui se rêvait Jeff Tuche.
Oui, lui aussi, il aurait aimé aller à l'Élysée, c'est François Fillon. Mais bon, tout ne s'est pas passé comme prévu, à cause notamment d'un certain Robert Burgi. Vous savez, c'est Monsieur Afrique de Nicolas Sarkozy, oui, avocat par ailleurs, qui lui avait offert 3 costumes pour une valeur de 13 000 euros. Après ça, il se fâche et Burgi déballe tout à la presse. Eh bien, ce matin sur BFM TV, l'avocat est revenu sur cet épisode en des termes assez explicites. Écoutez, c'était un moment de télé assez surréaliste.
C'est vous qui l'avez déclenché l'affaire des costumes. C'est vous qui avez appelé le journal du dimanche.
Dès le 10 janvier, j'ai dit à Sarkozy,
oui,
mais tu as suivi les sondages, ils sont favorables à Fillon. Il me dit, mais tu sais, il va droit à l'Élysée. J'ai dit, Nicolas, il n'ira jamais à l'Élysée. Mais comment ça, il n'ira jamais à l'Élysée? Parce que je vais le niquer.
Vous avez dit simplement, je vais le niquer.
Je vais le niquer.
Votre expression.
Il ne sera jamais président de l'URSS. Oh. J'avais ourdi le complot.
Mais quel cynisme. De votre part.
Quel professionnalisme, peut-être.
Wow. Bienvenue chez les tontons flingueurs. Et la suite de cette histoire, ce sera à 22h45.
Le mec, il m'offre quand même des costards avant. Donc, ouais.
De petits costards, 13 000 euros seulement. Ouais. 22h45 sur BFM TV ce soir pour découvrir un documentaire qui s'appelle Qui a tué François Fillon?
Lui-même.
Vous écoutez RTL.
11h, 12h30.
À la bonne heure.
Stéphane Bern sur RTL.
Et nous sommes toujours avec Isabelle Nanty et Olivier Barou. Alors, je vous ai préparé une interview seul à seul, une interview rire. À quel âge, d'abord je commence par vous Isabelle, vous avez commencé à rire?
Ouf. Très tôt.
Très tôt.
Ah ouais.
Très tôt, vous sentiez que vous aviez cette vis comica?
Ouais. 4 ans, je dirais. À 4 ans. Ouais.
Et vous, Olivier, vous avez commencé à faire rire tout le monde à
faire rire, oui, très tôt aussi, oui, c'est ça, oui, 8-9 ans, oui, en classe, oui, très rapidement, oui.
Et avec quoi? Vous étiez le clown?
Ouais, le clown. Mon papa était très, très drôle, très rigolo, donc je rigolais beaucoup avec lui, et puis en classe, en faisant l'idiot, quoi, voilà, tout simplement, en ayant de très mauvaises notes, en étant de cancre, et en allant au coin très souvent, oui.
Le rire était contagieux déjà?
Oui.
Vous avez le rire contagieux?
Oh ouais.
Oui. Ah oui.
Ah non, mais moi, je suis une grande rieuse. Ah oui. C'est ce que je préfère dans mon métier, c'est les gens qui me font marrer plutôt que de moi les faire marrer. De côtoyer des gens drôles.
Oui, moi, ouais, c'est pareil.
Ah ouais.
Et le rire, on peut le dire, est un excellent médicament.
Ah bah oui, il paraît que ça remplace un steak.
Oui.
Alors, je ne sais pas si le steak est encore considéré comme quelque chose de très bon.
Il faut quand même des frites.
Alors ça serait quoi les frites? Ça serait de l'esprit.
Non mais sérieusement, vous aimez à ce point les frites ou c'est juste pour le rôle?
Ah non, moi j'aime tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est féculent. Ah les féculents.
Ah oui.
Ah ben j'adore les féculents.
Moi, j'aime ça de temps en temps. Voilà, une fois, on va dire une fois par mois. Voilà, parce qu'après, évidemment.
Oui, bien sûr.
Là, en promo, on en mange beaucoup de frites.
Parce qu'on nous offre les frites.
Ils font tous la même surprise dans les émissions.
Oui,
en fait,
j'ai pas compris ça.
Bah, c'est sympa.
Pourquoi?
Mais
oui. Nous, on vous en a fait.
On les cache depuis tout à l'heure, on a honte.
Non, mais c'est vrai, dans toutes les émissions, vous.
Souvent, en tout cas, souvent, on nous apporte, même dans les salles de cinéma, quand on fait la tournée, comme ça.
On leur fait
des frites, des frites, des frites.
On ne leur reproche pas du tout.
Non, c'est très gentil.
Sympa. Confronté à un événement douloureux, vous dites, il vaut mieux en rire qu'en pleurer?
ça dépend quel événement.
Oui, bien sûr, il y a des choses dramatiques.
Non, mais il y a toujours des trucs drôles dans les trucs tragiques. Mmh. Et à l'inverse, tous les rôles qui sont supposés être des rôles comiques, puisqu'ils appartiennent à un monde qui est la comédie, je les ai toujours joués avec drame.
Mmh. Donc, c'est vrai. On part toujours d'une situation dramatique, Laurie. Ouais.
Vous, ça vous a manqué, Olivier, de ne pas être reconnu. Enfin, maintenant, vous êtes reconnu comme un réalisateur, mais d'être toujours le clown de service, au fond.
Non, non, moi, ça ne me gêne pas. Moi, je suis très content. Enfin, avec Cad, on se dit souvent, tu sais, là, ce qui nous arrive, quand même, notre vie, toi, acteur, moi, réalisateur, c'est quand même génial. Et on va se réveiller un jour, on sera en CM2, quoi. on se dit souvent ça.
Ah, oui.
Ouais. Et on va se réveiller, Barou, Mérad, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, non, c'est génial, du bonheur. C'est génial quand on voit d'où on est parti. C'est super, voilà.
Alors que moi, je suis plus pessimiste que toi. Je me dis, un jour, je vais me réveiller et je serai dans une EHPAD.
Ah, que
mon Dieu.
Eh bien, oui, mais alors vous savez, il y a des activités. Il y a le loto, il y a le scrab, il y a plein de choses qu'on peut faire dans une EHPAD. Mais il y a aussi, on peut jouer au quiz musical avec Monsieur Carmouze, qui est dans la même EHPAD. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Le test à l'aveugle de Patrice Carmouze.
Alors Patrice, on a 3 minutes. Alors faut aller vite.
Alors vite.
Pour gagner. Nos invités jouent pour Fabienne, vous jouez pour Anne. Ce sont des gens qui n'ont eu qu'un seul succès dans leur vie. Qui chantait cette chanson? C'est pour vous.
Zach Varum. Non, c'est pas. When a man who loves a woman.
Ouais, bravo.
C'est Régis en Joker.
Régis.
Percy Sledge,
bravo. Stéphane.
Oh là là. Vous avez pas trouvé, hein? La chanson, vous avez trouvé. Macarena.
Macarena.
Los.
Los del Rio.
Los del Rio. Allez. C'est un seul tube.
Macarena.
Ah oui.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile.
Oui.
C'est une femme.
Oui.
Ne la
laisse
pas tomber. Elle est fragile, elle est une femme libérée.
J'ai dit une femme démodée, moi, pardon.
Libérée, c'est pas si facile.
C'était Cookie Machin, comme
Stéphane. Stéphane.
Dehors. C'est à nous. Bernard.
Remarquable acteur.
Bernard Ménez.
Voilà.
Joli coupé.
Je crois pas que vous avez trouvé ce remarquable acteur, quoi.
Attends, mais si.
J'adore. De partout.
Alors, lui, est-ce que vous souvenez de son nom?
Ah oui.
Claude Michel Schoenberg.
Oui, bravo.
Carrière. Les Misérables, quand même.
Après, il y a beaucoup de comédies musicales.
Ah ouais, Miss Saigon, tout ça. Génial.
Bravo.
Ah, ça, c'est peut-être compliqué, Stéphane.
3-2.
Ah oui.
Ah oui.
Une voix t'appelle.
Là, en plus, Eric Dussard va pas vous aider.
Non, je suis en galère.
Allez, c'est un prénom, et son prénom, son premier prénom, c'est Jean-François, et après Jean-François... Mickaël.
Ouais.
Mickaël, bravo.
Ça a été soufflé.
Ça a été soufflé dans le public.
Et alors?
C'est le frère de François Mickaël.
Et alors?
J'ai vu les mers, c'est ce qui m'a fait le plus souhait. J'ai vogué sur les mers, et je m'y suis emmerré.
Je connais, c'est le tango, là.
Oui, mais c'est le tango suisse.
Ça ne veut pas.
C'est Bourville qui chantait ça.
Et je vous dis non.
Allez, il faut que vous égalisiez vite.
Vite.
Stéphane.
Mais non.
Je vais pas, je ris trop.
Ah, vous allez pas tomber. Patrick Coutin, il a
oui,
dit Stéphane.
Allez, c'est bon.
Regardez les filles.
Les livres Max.
Patrick Coutin.
Allez, départage le plus rapide.
Il aimait les femmes.
Regardez les filles.
Alors, attention. Départage, c'est le plus rapide entre vous trois.
Des souvenirs.
C'est Rachita. Mais c'est.
Eh bien, c'est donc.
Non.
Rachita,
c'est un 2-3 soleil.
Tube.
1-2-3 soleil.
Carte de séjour. Eh bien, c'est donc Fabienne qui a gagné. C'est Fabienne qui gagne le séjour.
au Futuroscope pour 4 personnes. Merci les amis, bonne chance pour les Tuches 3 qui sortent mercredi sur les écrans.
Rendez-vous pour un cheesecake très prochainement.
Oh oui, parce qu'on est gourmands tous les deux. Demain, nous serons avec Emmanuel Devos et Pierre Arditi, on parlera théâtre. Merci de nous avoir suivis à l'écoute d'RTL. RTL, il est midi et demi.
Vous écoutez RTL.